Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur un marin dans les eaux troubles du trafic de drogue, un skipper français emprisonné au Cap-Vert. Il clame son innocence. Nous avons mené notre contre-enquête. On va voir ça avec vous, Philippe Rétien. Bonjour.
Bonjour.
Nous répondrons ensuite, comme chaque mois, aux questions du médiateur de Radio France, Bruno Donnas. Bonjour.
Bonjour Benoît Colomba.
Et puis nous recevrons Laurent Mucchielli. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous publiez une enquête décapante sur le bluff de la vidéosurveillance. Beaucoup d'argent dépensé pour finalement peu de résultats.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colomba.
Jornal Nacional.
São acusados de tráfico internacional de drogas. A embarcação em que viajavam foi flagrada transportando mais de uma tonelada de cocaína.
Voilà, c'était le 29 mars dernier à la télévision brésilienne, un marin français et son équipage brésilien condamnés à 10 ans de prison pour trafic de drogue. Plus d'une tonne de cocaïne retrouvée dans leur voilier au Cap-Vert. Le skipper français est aujourd'hui en prison, mais il clame son innocence. Cette histoire, personne n'en a parlé jusqu'ici en France. Alors, à Secret d'Info, nous avons voulu reprendre toutes les pièces du dossier avec vous, Philippe Rétien. Et vous avez eu notamment accès à un document assez exceptionnel.
En effet, un journal écrit en prison sur un cahier d'écolier par ce skipper français, Olivier Thomas. Ce marin de 50 ans raconte son histoire, sa traversée, son arrestation sur un voilier britannique, une goélette qu'il devait convoyer du Brésil jusqu'au Portugal.
Alors on va entendre à plusieurs reprises des extraits du journal de prison de ce skipper français, des extraits que nous avons fait lire pour vivre de l'intérieur toute cette histoire. Et ce qu'on comprend d'abord, Philippe, c'est que ce français, il n'imagine pas une seconde que son bateau est chargé de cocaïne.
Oui, parce qu'avant de larguer les amarres, la douane brésilienne est montée à bord, inspecter le bateau avec un chien anti-drogue. Et elle n'a rien trouvé, ce qui rassure évidemment Olivier Thomas. Écoutez cet extrait de son journal lu par Eric Oswald.
12 jours avant mon arrivée, la police militaire brésilienne débarque sur le bateau pour une fouille complète avec ses chiens anti-drogue. Les réservoirs à gasoil sont démontés, ils sont vides. Après une journée de fouille complète, les autorités brésiliennes disent que tout est en règle. Du coup, je sais qu'il y a eu un contrôle anti-drogue à bord, je pars l'esprit tranquille.
Je pars l'esprit tranquille, écrit le skipper Olivier Thomas, sauf que quand il accoste un peu plus tard sur les côtes du Cap-Vert, c'est plus du tout la même histoire.
Effectivement, il a décidé de s'arrêter dans le port de Mindelo pour réparer son moteur et parce qu'un de ses équipiers est malade depuis le départ. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un comité d'accueil, la police du Cap-Vert. 2 jours d'inspection d'une précision chirurgicale que nous résume un proche du skipper, l'ancien consul de France Jean-Yves Defay.
4 ou 5 hommes de la marine montent à bord avec des scies, avec des masses et mettent quand même 5 ou 6 heures pour découvrir la drogue cachée. En profondeur, enlevant une couchette, enlevant un réservoir de 600 litres, enlevant un revêtement métallique soudé et enfin découvrant dans un conteneur spécial cette drogue.
De la drogue cachée en profondeur, que découvre donc la police du Cap-Vert? Et comment il a vécu tout ça, le skipper français?
D'abord, Olivier Thomas observe la scène avec incrédulité depuis le pont. Il demande aux policiers de ne pas jeter l'eau potable par-dessus bord, trop précieuse. Et puis arrive le moment choc sur lequel il revient en détail dans son journal. Écoutez.
Sous le réservoir d'eau, il y a 3 trappes recouvertes d'une plaque en acier boulonné. Chaque boulon est découpé à la meuleuse électrique. Ça fume de partout. On se croirait dans un atelier de métallurgie. Les policiers sont en sueur, l'air devient irrespirable. Le dernier boulon saute. La lourde plaque d'acier pivote et là, tout s'écroule. Des paquets entourés de plastique sont à l'intérieur. Sur le coup, je pense à des blocs de polystyrène pour flotter en cas de naufrage. Les policiers exultent de joie. Je n'y crois toujours pas, jusqu'au moment où un policier tire une aiguille de sa mallette et pose de la poudre pour la tester. Ça vire au vert. Le verdict est là, devant mes yeux, de la cocaïne pure. À ce moment-là, je réalise, on s'est fait baiser en beauté. Comment ai-je pu être aussi imbécile? C'est comme si je tombais de 10 étages.
Une chute de 10 étages, visiblement le choc est rude pour le marin français. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Eh bien, en un quart de seconde, il n'est plus un skipper, mais un vilain narcotrafiquant. menottes, commissariat, prison, cachot, interrogatoire dans un palais de justice en état de siège. La police capverdienne est persuadée d'avoir mis la main sur un gros poisson de la drogue. Autre moment fort raconté par Olivier Thomas dans son journal.
Les militaires débarquent, cagoulés, armés de Kalachnikov, on passe au niveau sécurité maximum. La police militaire escorte le convoi chargé de sacs de cocaïne. Il y a au moins 6 véhicules. Je ne risque pas de m'échapper. Le moral est au plus bas. Ils nous prennent pour des trafiquants de haut vol. La police militaire monte la garde de peur qu'un gang attaque le poste de police. L'addition va être dure à payer. On est mal, très mal. Innocent, oui, mais il va falloir le prouver.
Innocent, mais il va falloir le prouver, écrit donc Olivier Thomas dans son journal. Voilà donc pour l'enchaînement des faits. Revenons maintenant, Philippe, sur la personnalité de ce skipper français.
Alors, c'est un marin exceptionnel, originaire de Guérande, en Loire-Atlantique. Il sait tout faire, dessiner, construire des voiliers, régater, naviguer, plonger. Sa famille, des menuisiers de marine, de père en fils, est installée depuis 3 générations à Saint-Nazaire. Olivier, c'est le poisson à 2 jambes, selon Jean-Yves Defay, l'ancien consul qui le connaît bien.
C'est un poisson à 2 jambes, oui. C'est un homme sportif, sobre, frugal, déterminé. Je dirais qu'il est fier dans le bon sens du terme. C'est un indépendant farouche. Envie d'action aussi, c'est un homme qui a envie d'action.
Un homme qui a envie d'action, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Eh bien que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Il a fait la guerre du Golfe comme plongeur, démineur, mais son rêve a toujours été de construire des catamarans. Et c'est pour ça qu'il est parti au Brésil.
Donc quelqu'un qui sait construire un bateau de ses propres mains. Et comment ce bourlingueur des mers se retrouve à devoir convoyer ce fameux voilier alors ?
C'est un service qu'on lui demande et qu'il ne peut pas refuser. C'est le patron du chantier où il a construit son catamaran qui lui demande de le dépanner. Un de ses clients veut convoyer de toute urgence une goélette de 22 mètres à Madère, au Portugal.
Donc si je comprends bien, le client, c'est le propriétaire du bateau. Et ce propriétaire, est-ce que le skipper français le connaît ?
Non. Olivier Thomas fait sa connaissance juste avant d'embarquer. C'est un jeune Britannique qui se fait surnommer Fox, le renard. Un surnom qui lui va bien. C'est quelqu'un de très rusé. Par exemple, lorsqu'il rencontre le skipper français sur le quai, Fox soulève son t-shirt. Il montre ses cicatrices aux vétérans de la guerre du Golfe, de soi-disant blessures de guerre, pour gagner sa confiance. En réalité, Fox a absolument besoin que sa tonne de cocaïne quitte le Brésil pour l'Europe. Et pour ça, il a réussi à enfumer tout le monde, estime Marco, un proche du skipper emprisonné, que j'ai joint sur son bateau.
Il s'est fait piéger par la confiance qu'il avait de son ami, qui lui-même était tombé sous le charme du Fox, quoi. Je veux dire, le mec est très très fort, il faut lui tirer le chapeau. Le mec, il mérite un Oscar de meilleur acteur, il a été très très bon quand même, hein. Il a su gagner la confiance de tout le monde comme ça, de manière très très habile. Plus personne ne se méfiait de rien.
Très bon acteur, très habile donc, ce Fox, le propriétaire du bateau, et habile pas seulement avec le skipper français.
Oui, il invite aussi à déjeuner les parents des 3 jeunes apprentis de l'école de voile de Salvador de Bahia qui vont accompagner Olivier Thomas dans sa traversée. Il a visiblement enchanté Agnette Dantas, la mère d'un équipier. Je l'ai jointe au Cap-Vert.
C'était un jeune homme anglais qui disait qu'il était passionné par la navigation à voile, qu'il avait acheté ce bateau pour lui et qu'il voulait le faire réparer, et aussi qu'il envisageait de passer le reste de sa vie à voyager et à profiter de la vie. Il avait vraiment le chic pour vous séduire.
Un propriétaire du bateau qui avait le chic pour vous séduire, dit la mère de l'un des marins emprisonnés. Et donc, la justice du Cap-Vert a condamné tout l'équipage.
Eh oui, 10 ans de prison pour trafic de cocaïne. Il faut savoir que pour le Cap-Vert, archipel de 450 000 habitants sur la route de la drogue entre l'Amérique du Sud et les côtes africaines, il s'agit là d'une saisie historique. D'ailleurs, l'enquête a été baptisée « Opération Zorro » par le juge en charge du dossier. Le jugement a même été imprimé sur du papier à l'effigie du justicier masqué, c'est tout dit.
Ah oui, d'accord.
Dans cette histoire, le skipper français a vraiment l'allure d'un lampiste, estime la navigatrice Isabelle Autissier, également consultante pour Radio France.
C'est le pigeon de cette histoire, quoi. Et on lui a fait transporter de la drogue à son insu, et malheureusement, c'est une histoire tristement classique. que des gens se retrouvent avec quelque chose sur leur bateau qu'ils n'ont pas mis à bord, comme parfois c'est dans des bagages en avion. Mais évidemment, en bateau, c'est plus grave parce qu'en général, on a affaire à des grosses quantités. Donc évidemment, là, on paye cher, quoi.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu dans quelles conditions un skipper français s'est retrouvé accusé d'un monumental trafic de drogue, comment il a fait confiance à un Britannique très malin surnommé le Fox. Voyons maintenant, Philippe Reltien, votre contre-enquête. Quels sont les éléments qui permettent de douter de la culpabilité de ce marin français ?
Eh bien d'abord, la drogue était cachée depuis des mois, là où personne ne pouvait la détecter à l'œil nu, sauf à scanner les parois du bateau ou à les casser. Dans ces conditions, selon Yves Tassel, juriste et expert en droit maritime à Nantes, le skipper Olivier Thomas pouvait difficilement savoir qu'il transportait de la drogue.
Un skipper qui fait un convoyage de navire arrive pour prendre le navire et le découvre en relativement peu de temps. Donc il doit faire les vérifications de l'aptitude à la navigation, qu'il n'y a pas de marchandises dans ce navire, mais ça ne va pas au-delà. Si la cache est inaccessible, je pense qu'on doit considérer qu'il ne peut pas en avoir connaissance. À partir du moment où la cache est quasiment indécelable, je pense qu'on ne peut pas le tenir pour responsable.
Difficile de tenir le skipper pour responsable si la cache de la drogue est indécelable, dit ce spécialiste de la mer. Bon d'accord, mais même si la cache était invisible, le skipper, il peut quand même être complice.
Oui, à condition de connaître le propriétaire. Ce qui est sûr, c'est qu'Olivier Thomas se reproche constamment dans son journal de lui avoir fait confiance et d'être tombé dans le panneau. Écoutez cet autre extrait de son journal.
Le Fox en question est un professionnel de haut niveau avec une équipe internationale. Un laboratoire, une organisation pour charger la marchandise et un réseau pour l'écouler sur toute l'Europe. Nous, l'équipage, sommes les dindons de la farce.
Les dindons de la farce. Et tout cela pour un salaire dérisoire. 4000 euros au départ, 4000 promis à l'arrivée. C'est peu, comparé à la valeur de la drogue transportée, évaluée à 80 millions d'euros.
Et ce qu'on comprend à travers cette affaire, Philippe, c'est qu'il y a des routes de la drogue avec des enjeux financiers considérables.
Oui, que ce soit par avion, avec ce qu'on appelle des mules, des passagers qui transportent de la drogue, ou par bateau-conteneur, 600 tonnes de cocaïne transitent aujourd'hui d'Amérique du Sud vers l'Europe, avec des saisies des douanes qui ont doublé en un an dans les ports européens. Un marché stratégique donc pour les cartels de la drogue, comme l'explique le directeur de l'OCTRIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, Vincent Lebeguec.
On est vraiment sur un marché mondial. Les organisations criminelles, les cartels en Colombie et ceux qui existent au Mexique, sont obligés d'avoir des complicités dans la chaîne logistique qui leur permettent d'acheminer de manière sécurisée la cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe, avec une professionnalisation des réseaux, et chaque branche est compartimentée par rapport à l'autre, à savoir que ceux qui acheminent ne connaissent pas forcément les commanditaires finaux et ne connaissent encore moins les fournisseurs.
Oui, donc des cartels de la drogue obligés d'avoir des complices, de compartimenter leur logistique. Et quand on se retrouve au milieu, ça peut être très dangereux.
Bien sûr, quand on embarque pour un convoyage comme celui d'Olivier Thomas, il faut vraiment faire très attention avant de partir, avertit la navigatrice chevronnée Isabelle Autissier.
Dans le milieu de la voile et dans le milieu de la mer d'une manière générale, c'est quand même connu qu'une grande partie de la drogue transite par bateau et que les voiliers servent en partie à ça. Moi, j'ai un souvenir d'enfance, quand j'avais adolescente, une quinzaine d'années, je faisais du dériveur avec un garçon en Bretagne. Et ce garçon a embarqué pour faire un convoyage sur un bateau. Et en fait, on a retrouvé son corps avec une balle dans la tête, dans le golfe de Gascogne. Il y avait de la drogue sur le bateau, il y a eu un transbordement en mer. Et on s'est débarrassé de lui, on a retrouvé son corps. Donc, on n'est pas au pays des bisounours.
On n'est pas au pays des bisounours, dit Isabelle Autissier. Bon, mais alors, si ce skipper français n'a rien à voir avec ce trafic, s'il s'est retrouvé le dindon de la farce, comme il l'écrit dans son journal, dans ces conditions, à quel moment la drogue aurait été cachée dans le bateau ?
C'est évidemment la question primordiale à laquelle répond le rapport de la police judiciaire brésilienne qui a surveillé ce bateau pendant 2 ans. Il est probable, dit ce rapport, que le chargement de la cocaïne s'est effectué sur un ponton privé d'une villa brésilienne. Et cela, 2 mois avant le départ officiel du bateau, avant donc l'arrivée du skipper français. Des photos satellites de cette villa figurent au dossier judiciaire. Le rapport de la police brésilienne met donc hors de cause Olivier Thomas et son équipage, constate encore l'ancien consul Jean-Yves Defay.
Cette police judiciaire brésilienne exonère en effet les quatre accusés de cette responsabilité. Selon toutes ces enquêtes, il n'est pas prouvé que les quatre personnes, le capitaine du bateau et les trois marins, aient eu connaissance de la présence de la drogue et qu'ils n'avaient pas trouvé d'éléments de preuve à charge qui pouvaient les incriminer à ce point de vue-là.
Il n'est pas prouvé que l'équipage savait qu'il y avait de la drogue sur le bateau, affirme donc la police brésilienne. Mais dans ce cas, pourquoi la justice du Cap-Vert dit le contraire?
Le juge capverdien dit lui-même qu'il a voulu faire un exemple, en écartant les conclusions de la police brésilienne. Et ça, selon le spécialiste du droit maritime Yves Tassel, c'est une erreur.
Juridiquement, cela ne tient pas, parce que lorsque l'on enquête sur un fait qui est puni pénalement, il faut enquêter sur la totalité des faits. Et donc, on doit tenir compte de l'ensemble des faits. Il est clair que cette marchandise a pu être mise à bord avant que le skipper prenne en main le navire. Si la police brésilienne dit que c'est probable, le juge est tenu d'en tenir compte.
Le juge du Cap-Vert aurait dû tenir compte de l'enquête brésilienne, dit ce spécialiste du droit maritime. Et puis, il y a encore autre chose de très troublant, Philippe.
Mais oui, le fait qu'avant de partir, Olivier Thomas ait demandé à son père de l'accompagner dans cette traversée sur une goélette, comme le raconte Jean-Yves Defay.
Son père lui-même a déclaré au juge que son fils lui avait proposé de venir, parce que son père est un marin, lui aussi. Son père n'a pas pu, pour des raisons médicales, accepter. Et il a même dit au juge, ça aurait quand même été extraordinaire si j'avais accepté, alors on serait maintenant tous les deux en prison. Quelle histoire.
Oui, quelle histoire, parce qu'on imagine difficilement un fils embarquer son père sur un bateau de drogue. Et quelle est sa situation aujourd'hui à Olivier Thomas?
Il attend son procès en appel le mois prochain. Et dans son journal, il décrit très bien son quotidien dans le quartier de haute sécurité de la prison de Mindelo, réservé aux grands criminels.
Quel choc quand on vous emmène en cellule d'isolement. Un lit en béton et rien, à part la grille en acier. On a l'impression d'être dans un mauvais film de série B. La cellule doit faire 1,20 m sur 3 m, avec au fond deux grilles de ventilation à travers lesquelles on voit si c'est le jour ou la nuit. Dans la cellule d'en face, l'un de mes marins pleure tout le temps. Il faut lui remonter le moral. J'aurais préféré être seul. J'ai l'habitude des grandes navigations en solitaire. Là, je me mets dans les mêmes conditions, ça aide. Voilà comment je ressens ce moment. Un vide cosmique, sidéral, le trou noir. La chute libre qui ne s'arrête jamais. Affolant de n'être plus rien.
Des conditions assez rudes, un peu comme une traversée en solitaire finalement. Et sa situation en prison, elle a évolué?
Oui, depuis la fin septembre, Olivier Thomas a changé de cellule et d'avocat. Il peut recevoir des visites et il continue à survivre avec les moyens du bord.
La bouffe arrive. On mange dans un cul de bouteille en plastique, c'est archi dégueulasse. J'ai mal au ventre en permanence. L'alimentation de base ici, c'est le riz, les pâtes et les haricots rouges. Il n'y a pas d'eau dans les douches, alors on se lave avec une bouteille de 5 litres d'eau. Je vais essayer de récupérer un seau avec un gobelet, comme ça on perdra moins d'eau. Les types ici n'écrivent jamais. Personne n'a de crayon. Ils préfèrent tous fumer.
Des détenus qui n'écrivent pas, contrairement aux skippers français, on l'a bien compris. Et comment ça se passe avec les autres détenus?
Il a réussi à se fondre dans la masse, au milieu de vrais tueurs et de vrais trafiquants, certains tatoués jusqu'au visage. En prison, on l'appelle le professeur parce qu'il est le seul à tenir un crayon et un journal. Ce qu'il fait tenir, c'est l'espoir qu'Interpol mette la main sur le cerveau présumé du trafic. George Edward Saul, 34 ans, le fameux Fox, toujours en fuite dans cette affaire. Et pour s'évader un peu, il écoute la radio RFI.
Je mets le casque et me voilà grâce à la radio en train de plonger sur la barrière de corail en Nouvelle-Calédonie. Je ferme les yeux et m'évade de la cellule. Quel pied. Bon, le retour est hard après avoir flirté avec les tortues sous-marines. J'ai le mur dégueulasse face à moi et le ciel bleu entre quatre barreaux.
Le ciel derrière les barreaux pour le marin français Olivier Thomas, en attendant donc son procès en appel en juin prochain. Merci Philippe Reltien pour cette enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Merci également à Eric Oswald d'avoir prêté sa voix à notre enquête.
France Inter, Secret d'Info, Benoît Colomba.
Alors nous retrouvons à présent, comme chaque mois, le médiateur de Radio France, Bruno Denas. Bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Alors est-ce que nos dernières enquêtes ont suscité des réactions ou des questions particulières, Bruno ?
Eh bien il fallait s'en douter, votre enquête sur les hôpitaux au bord de la crise de nerfs a beaucoup intéressé les auditeurs. Il faut dire que nous sommes ou serons tous un jour concernés par une prise en charge dans un hôpital. Beaucoup de témoignages de personnel de santé ou de patients comme Frédéric. On n'est pas loin de la maltraitance dans l'hôpital où je me rends 5 jours toutes les 4 semaines pour un traitement. Ou Michel, j'ai passé 3 mois dans plusieurs hôpitaux, mes séjours ont été des cauchemars. Je confirme que le bien-être et la guérison des malades ne sont pas la priorité de la direction des établissements. Des médecins et des infirmières nous ont écrit également pour nous dire que le management des hôpitaux était vraiment catastrophique, quand d'autres affirment que tout cela vient d'un manque d'anticipation de la médecine ambulatoire et du virage numérique du système de santé.
Voilà donc pour toutes ces réactions sur l'hôpital. Bruno, une question cette fois sur un sujet qui a visiblement marqué les auditeurs.
Oui Benoît, et ça concerne évidemment un autre sujet auquel nous sommes tous un jour confrontés, les obsèques d'un proche. Philippe Reltier a enquêté sur les arnaques et les dérives de certains professionnels. Vous avez principalement évoqué les 3 plus grosses sociétés de pompes funèbres, nous écrit Nathalie, mais vous n'avez pas parlé des pompes funèbres municipales comme celle de Paris. Offrent-elles les mêmes services ? Sont-elles plus abordables ? Vous demande-t-elle.
Philippe, je vous laisse répondre.
Eh bien dans cet univers impitoyable de la concurrence, effectivement, il y a aussi les services funéraires des grandes villes. À Paris, c'est une société d'économie mixte qui gère les cimetières et fait commerce de cercueils et de monuments en granit. La plupart des grands crématoriums, il y en a 200 en France, sont gérés par le privé. À Paris, la ville garde la main sur 2 crématoriums et des cimetières intramuros comme le Père Lachaise. 11 adjoints au maire ou conseillers administrent la société. C'est la ville de Paris qui fixe les prix. Les questions d'éthique sont aussi de son ressort. Sur le site dédié, on s'engage à respecter vos convictions, religions et croyances. Donc c'est vrai, depuis la fin du monopole communal en 1993, on assiste à une mutation des régies municipales en sociétés commerciales, en concurrence avec les grands groupes de pompes funèbres.
Une autre question là-dessus, Bruno ?
Oui, Pascal nous signale un autre scandale de l'industrie funéraire, le boycott des cercueils en cellulose, appelé plus généralement cercueils en carton. Évidemment, moins cher et particulièrement indiqué, nous dit-il, pour la crémation. Mais poursuit Pascal, les 3 poids lourds du marché français refusent de les proposer. Est-ce une autre dérive de ce marché assez fermé ?
Alors, effectivement, une association famille rurale que j'ai consultée pendant l'enquête me l'a fait remarquer. Le carton produit de l'économie circulaire, c'est plus écologique que couper des forêts. Et ça devrait mettre le cercueil au prix de 400 euros. Mais c'est vrai, on n'en voit pas en magasin. Alors, après, je ne peux pas prouver qu'il y a volonté délibérée de ne pas les mettre sur le marché. On m'a dit aussi qu'il était assez facile d'aller acheter son cercueil en carton en Suisse. Mais à quoi bon si les crématoriums les refusent sous prétexte qu'ils polluent ? De nouvelles normes de pollution viennent d'entrer en vigueur et on a fait des essais de brûlage tout récemment au Père Lachaise. Paradoxalement, le cercueil en bois brûle plus vite que le carton en crématorium, ce qui permet des cérémonies moins longues et moins coûteuses pour les opérateurs. C'est peut-être ça la vraie raison de leur réticence.
Voilà pour notre enquête sur le marché de la mort. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur d'autres enquêtes ?
Oui, l'enquête de Laetitia Chérel sur Macron et les catholiques. Plusieurs auditeurs estiment qu'il ne s'agit pas d'une véritable enquête, mais plutôt d'un dossier politique qui n'a rien de scandaleux.
Alors je vais laisser Laetitia répondre, mais juste un mot quand même pour dire qu'à Secret d'Info et à la cellule d'investigation, par principe, on ne s'interdit aucun sujet, aucun domaine particulier. La promesse de l'émission, c'est de révéler des informations, bien sûr, mais aussi d'éclairer ou de décrypter avec parfois des formes qui peuvent être un peu différentes, comme on l'a fait par exemple pour Lafarge en Syrie ou les soupçons de financement politique dans l'affaire libyenne. Donc dans cette enquête-là, oui, il s'agissait clairement d'une émission un peu différente des autres dans la forme, mais sur le fond, l'idée était bien d'aller au-delà de la petite phrase d'Emmanuel Macron reprise par tous les médias, vous savez, le lien selon lui abîmé et qu'il faudrait réparer entre l'Église et l'État. Pour le reste, je laisse répondre Laetitia Chérel.
Alors effectivement, Benoît Colomba le disait, des petites phrases qui ont surpris dans ce discours, il y en avait beaucoup, pas seulement celle sur le lien abîmé entre l'Église et l'État. Et pour suivre les affaires de religion depuis plusieurs années, j'ai moi-même trouvé que ce discours était plutôt hors norme à bien des égards. Par exemple, quand le chef de l'État dit « un président qui se désintéresserait de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir », ça peut étonner, ou même « la France a été fortifiée par l'engagement des catholiques », les mots sont très forts. Donc, on a voulu montrer un peu le dessous des cartes de ce discours. Pourquoi le chef de l'État a employé le vocabulaire des catholiques Par exemple, le droit à la vie de l'enfant, ça c'est un terme utilisé par les anti-avortements. C'est aussi une façon de parler à l'oreille des anti-PMA, de la Manif pour tous, qui se préparent à descendre dans la rue si la PMA, la procréation médicalement assistée, était ouverte aux couples de femmes, comme l'a promis Emmanuel Macron. Voilà, donc, on a aussi révélé des faits, comme par exemple, qu'est-ce qui est à l'origine de la venue d'Emmanuel Macron aux Bernardins? Alors, les évêques de France disent, on l'a invité parce qu'on pensait naturel de l'inviter. Mais en fait, non. Ça, c'est la version officielle. Nous, on a appris que cette invitation, elle a été faite parce qu'il y a plusieurs choses qui ont vraiment agacé l'entourage d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux tours. C'est d'abord le fait que l'Église se soit abstenue de prendre position pour lui face à Marine Le Pen. Et puis, la deuxième chose, c'est une petite phrase du pape, toujours pendant l'entre-deux tours, qui a dit ne pas connaître Emmanuel Macron et par contre connaître Marine Le Pen comme étant la représentante de la droite forte. Voilà.
Merci Laetitia Chérel, Philippe Reltien et merci Bruno Denas. On vous retrouve évidemment dans un mois et en attendant, continuez à envoyer vos commentaires et vos questions sur le site du médiateur, mediateur.radiofrance.fr. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons vous révéler l'envers du décor de la vidéosurveillance.
Imaginative ways, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like, during the meteor strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio.
Four out of five, le groupe Arctic Monkeys, après 5 ans de silence, extrait de leur dernier album, Tranquility Base Hotel and Casino, avec un petit clin d'œil à Stanley Kubrick si vous allez voir leur clip.
Secret d'info, Benoît Colombat sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Laurent Mucchielli, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de délinquance, et vous venez de publier un livre très documenté, Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance aux éditions Armand Collin, un travail de terrain pendant plusieurs années, notamment dans trois villes aux profils très différents, une petite, une moyenne et une grande, avec un point commun, elles sont toutes équipées avec des caméras de vidéosurveillance et à chaque fois, vous aboutissez à la même conclusion, Laurent Mucchielli, la vidéosurveillance ne semble pas être d'un grand secours pour les enquêtes policières.
Effectivement. Et ce qui est frappant, c'est que, au fond, quel que soit le dispositif, l'aide qu'apporte réellement la vidéosurveillance aux policiers ou aux gendarmes dans leurs enquêtes est comprise entre 1 et 3%. Donc, c'est dans 1 et 3% du total des enquêtes qu'ils font sur les faits de délinquance de voie publique sur une année entière, sur une commune entière, qu'on trouve une image de vidéosurveillance jouant un rôle important. Donc, c'est pas nul, mais c'est vraiment tout petit. Les rares données qu'on trouve sont celles de la Cour des comptes, heureusement, hein, qui est l'instance chargée de faire de l'évaluation des politiques publiques. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est comment se fait-il, au fond, que les choses fonctionnent comme ça? Comment se fait-il qu'on ne parte pas du diagnostic des besoins de la population pour construire à partir de là des réponses, plutôt que de partir de la démagogie des élus ou par ailleurs du marketing des industriels, puisqu'il y a derrière tout ça un immense marché. On devrait partir du diagnostic des besoins. Et à ce moment-là, on verrait que dans certaines villes, il y a des besoins de sécurité, tout à fait, mais qui seraient peut-être aussi bien, voire mieux comblés, par exemple, par une meilleure police municipale, pourquoi pas. Et puis, il y a également d'autres communes, et notamment des petites villes, des villages, qui s'équipent massivement en vidéosurveillance, où pourtant, objectivement, il n'y a pas de besoin de sécurité, où il y a peut-être d'autres besoins, par contre, et qui, du coup, ne sont pas satisfaits, puisque c'est la chose que je veux dire qui me paraît tout à fait importante, c'est que dans le contexte actuel de ce que sont les finances publiques des collectivités, elles pleurent pour dire les choses. Elles disent, nous avons de plus en plus de charges et de moins en moins de ressources. Par conséquent, chaque euro qui est mis dans la vidéosurveillance, il est par ailleurs enlevé dans d'autres budgets.
Et vous parlez même de véritables gabegies à cet égard.
Oui, je parle de gabegie en particulier lorsqu'il s'agit d'employer des fonctionnaires, des agents municipaux, à longueur de journée pour regarder les écrans.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez également enquêté dans des centres de supervision urbaine, c'est-à-dire des locaux avec des agents qui regardent en direct des images sur des écrans de télévision. Et ce que vous découvrez, c'est qu'ils n'interviennent pas finalement sur de la délinquance de voie publique.
Oui, ce que je montre, c'est qu'en fait, la part de leur activité qui est consacrée à la lutte contre la délinquance, elle est proprement dérisoire là aussi. La plupart du temps, les agents ne voient rien qui ait qu'un quelconque rapport avec la délinquance. On détourne le système pour leur faire faire autre chose. Et le principal détournement auquel nous assistons de nos jours consiste en fait à flasher par vidéo les infractions routières. Le système qui est censé nous protéger du terrorisme et de la grande délinquance ou de la délinquance en général, en fait est détourné pour lutter contre une toute autre forme de délinquance qui sont les infractions routières. C'est un détournement rentable qui sert à tout à fait autre chose. La moindre des choses serait de le dire aux citoyens.
Et ce que vous dites également dans votre livre, c'est que la vidéosurveillance ne fait que déplacer ailleurs la délinquance.
Alors ça, c'est un phénomène qui est bien connu en fait à l'étranger, parce qu'il faut redire qu'en France, nous n'avons malheureusement pas de culture de l'évaluation, donc on tombe des nues et on est obligé de réinventer l'eau chaude, mais en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, j'ai une grosse bibliographie dans le livre où je cite tous ces travaux étrangers, où entre autres choses, on a depuis longtemps montré quelque chose qui en fait tombe assez sous le sens, l'effet de déplacement de la délinquance. Alors je le montre notamment sur deux des trois villes que j'étudie très en détail, en prenant par exemple le cas d'un parking, le parking d'une gare, où les gens abandonnent leur voiture toute la journée pour aller travailler, puis reviennent le soir. Il y a des gens qui viennent concrètement essayer de casser des voitures pour piquer le sac, la veste qu'on a oublié, ou voir ce qu'il y a dans le coffre, etc. Donc la ville met en place une stratégie pour sécuriser, comme elle dit, ce parking, coupler des interventions de terrain avec de la vidéosurveillance. Le résultat à la fin de l'année, c'est qu'il y a effectivement beaucoup moins de vols sur ce parking. Donc communiqué triomphateur de la mairie. Oui, sauf que moi je vais voir à la fin de l'année les chiffres de la commune, et il y a toujours autant de vols dans les voitures sur l'ensemble de la commune. Parce que le phénomène s'est déplacé à un autre endroit où il est moins risqué de voler pour les voleurs.
Alors finalement, la vidéosurveillance, ça peut éventuellement être utile, mais sur des endroits stratégiques.
C'est ça, c'est ce que je dis à la fin de mon livre. C'est-à-dire, si on essaie vraiment d'être rationnel, encore une fois, et de se préoccuper un petit peu de la bonne gestion des deniers publics, je ne préconise pas de tout désinstaller, de tout mettre à la poubelle. C'est pas ça du tout. On pourrait tout à fait garder quelques caméras placées à des endroits qui sont vraiment stratégiques en termes policiers, ce que les policiers et les gendarmes appellent les axes de fuite, et puis les entrées-sorties de ville, etc. Et par contre, se débarrasser de tout ce qui est fait, et de plus en plus, non pas du tout pour lutter contre la délinquance, mais peut-être pour quelque chose qui s'appelle le sentiment d'insécurité, ou les clientèles politiques des élus, etc. Ce qu'on voit de plus en plus. Et puis, par ailleurs, je préconise également de remettre sur le terrain, sur la voie publique, les agents qui sont enfermés dans ces centres de vidéosurveillance où ils ne luttent pas fondamentalement contre la délinquance. Ce n'est pas vrai.
Ce que vous montrez également, c'est qu'il y a tout un marketing bien orchestré finalement autour de cette vidéosurveillance.
Il faut bien voir que la vidéosurveillance et plus largement les technologies de surveillance sont un énorme marché mondial hyper concurrentiel avec des pays comme la Chine, les États-Unis qui sont extrêmement offensifs, des plus petits pays également très performants comme la France, comme Israël. C'est par ailleurs un marché qui a la caractéristique d'avoir un pied dans le militaire et un pied dans le civil. Donc ça veut dire qu'on touche aussi au complexe militaro-industriel de tous ces pays, d'où l'implication aussi des pouvoirs politiques dans ces questions-là. Et donc fatalement, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui savent faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent, donc qui ont un grand business plan qui se déploie au fil des ans. On a d'abord vendu des caméras fixes, puis des caméras qui tournaient à 360 degrés, puis des caméras qui avaient de l'infrarouge pour voir la nuit. Aujourd'hui, la grande mode sur le marché, c'est d'essayer de vendre aux communes de la vidéosurveillance dite intelligente, avec de la reconnaissance faciale, la détection de mouvements incongrus, etc. Et donc j'annonce que ce sera déjà la prochaine étape commerciale, ce seront en fait les drones de sécurité. Les marchands de sécurité reviendront voir les élus en disant « Bon, c'est vrai que ces gens ont du mal à voir les écrans, c'est vrai qu'on ne peut pas vous mettre des caméras non plus dans tout, ça coûte trop cher dans toutes les rues, il vous faut de la mobilité, nous avons la solution, c'est le drone ».
Merci Laurent Mucchielli, je rappelle le titre de votre ouvrage « Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance » aux éditions Armand Collin. Et merci à France Bleu Provence pour la liaison technique de cette interview. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert. Merci à Gilles Gaillard et à Jérémy Guillon à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou, CEO de Mon Amour, avec notamment Frédéric Lenoir pour son documentaire sur l'astrophysicien Hubert Reeves. La cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.